Dans mon intervention, que j'ai intitulée au départ « Normes charaïques ou charia et pratiques de l'espace pratique féminine de l'espace au Maroc », je propose de mettre en regard le système normatif théorique avec les pratiques sociales pour mesurer le degré de prégnance du premier sur les secondes, c'est-à-dire voir un peu. Mon but, c'était de voir dans quelle mesure la réalité sociale fait écho au fait des textes normatifs. Et cela à travers l'étude donc, d'un livre, Ahkam al-Nisa, de Ibn al-Jawzi. Je vous expliquerai pourquoi ce livre-là. Alors, pourquoi ce livre-là et pourquoi cet auteur-là, Ibn al-Jawzi? Pour deux raisons. Toute simple, c'est que je suis en train de traduire ce livre avec un collègue, Eric Chaumont. Donc, on est en train de le traduire et de l'analyser en vue d'une publication. Et lors de en travaillant sur ce livre-là, j'ai trouvé intéressant de croiser les deux regards, le regard sociologique et le regard normatif. Surtout que ce livre fait écho à des problématiques que j'ai déjà traitées dans mon travail de thèse, qui a porté donc sur les évolutions sociales dans une société en mutation, à savoir la société marocaine, et sur la redéfinition de la place des femmes. Donc dans l'espace public, c'est-à-dire à travers le rapport à la ville et à l'habité. Mon but à travers mon travail de thèse, c'était de voir les relations qu'entretiennent les femmes marocaines avec l'espace urbain, comment ils vivent la ville, l'urbain. Et j'ai fait cette étude à travers un travail d'observation et d'analyse des modes d'occupation de l'espace et des pratiques féminines, que ce soit à travers leur mobilité obligatoire ou de loisirs. La deuxième raison qui me paraît plus significative et qui explique un peu le choix de cet ouvrage-là, c'est que mes études de terrain, que ce soit en Syrie, en Égypte ou au Maroc, m'a montré que la norme, elle est toujours là, elle existe. Et que les gens vont la chercher dans les textes de cette nature, qui sont parmi les plus rigoristes de la tradition musulmane. Et là, la spécificité de Ibn al-Jawzi par rapport aux autres, c'est qu'il a consacré tout un livre sur la condition de la femme musulmane. Donc c'est le seul qui s'est distingué par cette spécificité-là, un livre sur la femme musulmane, parce que contrairement à la littérature éthico-charaïque où par exemple on a des exposés un peu épars sur le statut de la femme, mais qui ont rarement fait l'objet d'une littérature spécifique. Là, ce qui est singulier chez Ibn al-Jawzi, c'est que, et chez beaucoup d'auteurs contemporains d'ailleurs, c'est l'autonomisation justement de cette problématique féminine. Voilà pourquoi j'ai choisi cet ouvrage-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaffirmation de la norme en référence à des auteurs et à des œuvres ressortant justement des courants les plus conservateurs comme celui d'Ibn al-Jawzi. Là, j'en reviens à la définition d'Ibn al-Jawzi, justement, que j'ai prévu de... Alors, Ibn al-Jawzi, qui est ce personnage? Et quel est son apport? Son nom, c'est Abdelrahman Noual ibn Muhammad Abou al-Farag ibn al-Jawzi. Il était à la fois légiste, traditionniste, historien et sermonnaire, wise. Sur le plan légal, il était d'obédience hanbalite. À Bagdad, sa renommée était grande et il y est né en 510, en 1116. Il mourut en 597, l'équivalent de 1200. Il s'agit d'un auteur qui est publié partout énormément, comme Ibn Taymiyyah d'ailleurs. Alors, la présentation du Kitab, rapidement, ce traité, il a pour vocation de rappeler à la communauté musulmane ce qu'est ou ce que doit être la condition de la femme au sein de celle-ci. Il indique ce que sont, selon son interprétation des choses et celle de ses maîtres, les commandements positifs ou négatifs, adressés par la charia aux femmes musulmanes. Il met plus particulièrement l'accent sur la dimension communautaire des prescriptions charaïques. Comment, d'une part, la femme musulmane doit se comporter parmi les siens, dans sa maisonnée, et d'autre part, comment elle doit agir au sein de la communauté musulmane au regard de la charia. Il se compose de parties et de chapitres, plusieurs parties, ce qu'on appelle les fousoul et les abouab. Et chaque chapitre comporte un titre qui résume un peu le contenu du chapitre. Les titres, abouab, sont de l'auteur, par contre, les titres des fousoul sont de l'éditeur. Donc, Ibn Jawzi, comment il procède? Il commence par des témoignages du prophète et de personnalités religieuses qui ont leur poids, donc sur les différents aspects qui concernent la vie des femmes, sorte d'avis ou de loi. Puis après, donc, on retrouve, il fait une sorte de commentaire sur les femmes de son époque, puis il conclut en donnant son propre jugement. Donc là, je vais passer rapidement à l'exposé synthétique des chapitres du livre qui est relatif à l'espace public, avant de passer donc à la réalité sociologique et de voir un peu les résonances ou les dissonances par rapport à ce texte-là, dans donc, la vie des femmes marocaines. Alors, je voulais juste préciser que je suis sociologue, donc j'ai lu ce livre non en tant que spécialiste des religions, donc, ou comme islamologue, mais comme sociologue. Donc je me suis intéressée à tous les chapitres relatifs à l'accès des femmes du monde extérieur. Il s'articule autour de trois principaux points. Donc le premier point, c'est sur l'accès des femmes au dehors, d'une manière générale, donc sur le principe même de l'accès à l'espace public. Le deuxième, c'est sur les jugements et sur le principe, sur les commandements. Il comporte des commandements sur les lieux de sortie permis et non permis, sur les codes du paraître en public. Et le troisième porte sur les lieux, le premier c'est sur l'accès, le principe d'accès des femmes à l'espace public. Le deuxième c'est sur les lieux féminins, les lieux publics qui sont permis ou non permis aux femmes. Et le troisième c'est sur le code de paraître en public. Alors, par quoi commence Ibn Jawzi? L'idée sur l'accès des femmes au dehors, donc qu'est-ce qu'il met en relief? C'est que la place des femmes est dans leur foyer. Donc on doit leur interdire de sortir. La coutume veut que la femme se pétrifie dans leur maison comme les serpents. Donc il nous donne une citation sur ça. Il vante les mérites de la femme qui travaille chez elle et par exemple assimile le fait de rester chez elle pour les femmes au jihad. La raison, c'est que le corps féminin donc est une aura qu'il appelle le démon, donc qu'il y a un risque de séduction et de fitna, donc fitna de la racine, donc fatana, qui signifie donc mettre à l'épreuve, éprouver, tenter, chercher à séduire, etc. Donc, et la femme, donc dans le dehors, serait le symbole de l'incontrôlable, d'où la nécessité pour les femmes donc de rester chez elles. La deuxième, donc là j'essaie de résumer un peu rapidement donc ce qu'il en est, sans rentrer dans les détails. Concernant les points sur les lieux de sortie des femmes, donc il distingue les lieux de sortie permis et les lieux de sortie non permis. Donc sur les lieux de sortie permis, il a remarqué que les seuls lieux qui sont permis aux femmes, ce sont la mosquée, le pèlerinage et les sorties le jour des deux fêtes. Les deux fêtes, il signifie par ça la fête du sacrifice et la fête de la rupture du jeûne. Hein, et pour participer à la da'wah, c'est-à-dire la promotion et la publicité de l'islam. Évidemment, toutes les femmes ne sont pas concernées par cette dernière sortie qui est la sortie le jour des fêtes. Seules les jeunes femmes pubères et les menstrues qui peuvent sortir. Hein. Donc ces sorties permises, comme on le remarque, sont en lien direct avec le religieux. Alors concernant l'accès à la mosquée, par exemple, comme premier lieu permis donc, aux femmes, on note le caractère licite et non obligatoire pour la femme d'aller à la mosquée, sauf si la femme a peur de la fitna. Il est ainsi autorisé à la femme d'aller prier dans la mosquée, mais son foyer reste mieux pour elle. Et d'ailleurs, il nous dit que selon le prophète, la meilleure mosquée des femmes est le fin fond du foyer et le fin fond de sa chambre. Donc il parle du mot qar, qui veut dire fond, donc qui est ici utilisé en tant que fond de la pièce qui n'est accessible qu'au maître de la maison. Donc c'est vraiment, ça fait référence à l'inviolable par excellence. Et dans ce lieu, donc évidemment, la présence des femmes est codifiée. Il nous dit par exemple qu'il faut qu'elles soient couvertes, discrètes, en état de pureté majeure. Donc il fait allusion aux grandes ablutions pour les deux sexes. Il nous dit que la femme ne doit pas prier avec les hommes, mais derrière, pour ne pas invalider et sa prière et celle des personnes qui se trouvent derrière elle, etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne la mosquée. Donc pour le pèlerinage, il nous dit que l'accès des femmes en dehors pour le pèlerinage, il est permis. Il note l'obligation du hajj, pareil, comme pour les hommes, mais sous certaines conditions. Donc pour que la femme fasse le pèlerinage, il faut qu'elle soit de conditions libres, pubères, douées de sa faculté rationnelle ou mentale, quels sont les moyens et surtout qu'elle soit accompagnée d'un parent proche qui lui est interdit au mariage et qui pourra l'accompagner comme le frère, le père, le mari ou le fils. Et il nous dit que le pèlerinage est pour la femme ce que le jihad est pour l'homme. Et à chaque fois, Ibn Jawzi évoque les mérites du confinement des femmes chez elles, et même par rapport au pèlerinage, il nous dit que le mieux pour la femme, c'est qu'elle se limite aussi au rituel essentiel. Donc là, voilà en ce qui concerne les lieux permis. Sur les lieux donc, de sortie non permis ou prohibés, donc, il y a le hammam. Hein, le hammam. Et le titre de son fasl ou de son chapitre, c'est du caractère désapprouvable de la fréquentation des hammams. Fi karahiyat al-hammam li nisa' en arabe. Alors ici, il consacre un long chapitre au hammam et à ce point. Alors il nous dit que par exemple, le hammam est makrouh, désapprouvable. Pourquoi ? Selon lui, c'est un lieu d'ébauche et il l'assimile à une table où l'on boit du vin. On a un qiyas ici entre le hammam et le vin. Il insiste beaucoup pour les deux sexes sur le fait de se couvrir donc au hammam, et met cela au même niveau que la bienveillance envers le voisin, etc. Alors, les femmes au hammam, pour les femmes, le hammam est makrouh parce que, pour deux raisons, tout d'abord, parce qu'on se dénude dans un lieu étranger. On y dévoile les parties intimes, donc, et on n'est jamais à l'abri du danger de ce dévoilement des parties honteuses. Donc, et surtout que les femmes, il ne leur est permis de se dénuder que dans la maison de leur mari ou de leur mère. Et en se dénudant dans un lieu extérieur, que sans foyer, elle commet une offense à Dieu et au mari. Et là, il y a une analogie qui est faite entre le mari donc, et Dieu. Hein. Et il nous dit que cette tradition de hammam, il l'attribue à Ajam. Et selon lui, le prophète aurait interdit l'accès des femmes au hammam dans la terre des Ajam qui viennent d'être conquises, sauf pour un cas extrême, par exemple, maladie ou suite à un accouchement. Et celle qui s'y aventurait, par exemple, Dieu lui noircira le visage le jour du jugement dernier. Hein. Donc les femmes pieuses, pour résumer, doivent s'interdire d'aller au hammam et ne doivent y accéder qu'en cas de force majeure, hein, de maux ou de maladie, que seul cet endroit peut guérir, par exemple les grandes ablutions, les menstrues, ou les femmes qui viennent d'accoucher, comme je viens de le dire, ou en cas de grand froid et dans l'impossibilité de réchauffer de l'eau. La présence féminine dans cet espace est ainsi. Donc, et la femme, si elle y accède, donc sa présence, elle est codifiée. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que les femmes doivent éduquer leur regard, c'est-à-dire, il n'est pas permis à une femme de regarder la aura, les parties intimes donc, d'une autre femme, ou qu'elle s'expose au regard des autres femmes, même si cette femme est une de ses proches, sa mère, sa sœur, etc. Sauf pour les femmes donc impubères. Par exemple, si les femmes nubiles sont obligées de se soumettre à cette loi, les filles impubères qui ont moins de 7 ans ne le sont pas. Elles ne sont soumises à aucune obligation légale d'ailleurs, hein, ce qui est l'un des principes, bien sûr, de l'ordre légal musulman. Donc ces jeunes femmes impubères sont considérées sans aura, asexuées, d'où la possibilité pour un père, par exemple, de laver sa fille qui a 7 ans ou moins de 7 ans, comme le note donc Ibn Jawziyyah dans son livre. Donc étant que la fille ne suscite pas la concupiscence d'un homme, elle n'entre pas dans le cadre des aurat, explique-t-il en citant Ibn Aqil. Alors, les autres lieux qui sont interdits aux femmes, les cimetières, donc la visite des tombes, elle est interdite aux femmes. Et les femmes doivent s'éloigner de tous les lieux de la mixité avec les hommes. Donc, elles ne doivent pas se mélanger à la foule des hommes, dans les marchés notamment. Alors, le troisième point concerne donc que cite Ibn Jawzi, c'est les codes du paraître en public. Il fait des commandements aux femmes. De se bien tenir dans l'espace du dehors. Alors, quelles sont ces normes relatives au paraître en public ? Tout d'abord, on distingue. Donc, avant toute chose, pour accéder à l'espace public, la femme doit demander l'autorisation du mari. Donc, sinon, elle sera maudite par les anges, etc. Donc, il ne faut pas qu'elle s'adonne au loisir. Sinon, car ce sont des lieux de mixité et n'y est jamais à l'abri de la tentation et du péché. Au niveau vestimentaire, il faut qu'elle soit couverte. Les femmes habillées en pantalon sont bénies, car ce dernier protège l'aura des femmes. Et la tenue des femmes en général doit être négligée pour ne pas attirer l'attention sur elles. Et il met en garde contre le tabac rouge. Et là, il est intéressant de voir comment lui, il nous définit le tabac rouge. Donc, par exemple, il nous donne la définition donc, de Mujahid du tabac rouge, qui fait référence à la mixité en femmes seulement. Et Qutada, par exemple, définit le tabac rouge comme la démarche provoquante des femmes. Et Al-Farra définit le tabac rouge comme le fait pour la femme de mettre un vêtement léger qui dessine ses formes. Par contre, le tabac rouge chez Ibn Jawzi concerne seulement le fait d'avoir accès au dehors et le seul fait de marcher donc dans la rue, ce qui montre encore une fois le caractère donc rigoriste un peu de son interprétation. L'autre code ou norme que doit donc respecter la femme quand elle a accès à l'espace public, c'est sa démarche. Il faut qu'elle marche en longeant le mur, mais jamais au milieu du chemin. Elle doit emprunter donc un chemin désert et vide et non des rues fréquentées, comme les marchés. Et sa démarche doit être discrète. Alors, leur sortie, donc, lors de leur sortie, elles ne doivent pas saluer les hommes et les hommes ne doivent pas les saluer. On ne doit pas entendre la voix et, parce que leur voix est considérée aussi, la voix des femmes est considérée comme une aura. Et Ibn Jawzi insiste beaucoup sur le parfum des femmes qui doit être discret et sans odeur. Donc, et là, il nous dit, selon le prophète, le parfum de l'homme a une odeur, mais pas celui des femmes. Donc, il a une couleur, mais pas d'odeur. Et là, on note le parallèle qui est fait entre la femme qui se parfume et la fornicatrice. Donc, et pour la prière, par exemple, on assimile le parfum à l'impureté majeure. Une femme parfumée doit procéder aux grandes ablutions pour pouvoir prier, sinon sa prière est invalidée. Dernier code, c'est la déontologie du regard qui est traitée dans plusieurs chapitres. Il nous dit que les femmes ne doivent pas regarder ou être regardées par peur de la fitna. Et là, on remarque chez lui une notion de réciprocité. Donc, c'est-à-dire que aussi bien les hommes que les femmes peuvent être tentés l'un et l'autre. Et là, il va plus loin en nous disant que, par exemple, pour préserver la femme, il faut même la protéger de tout ce qui peut ressembler à un homme de près ou de loin. Il cite l'exemple, là, pour l'anecdote, du singe qui peut, la femme peut être tentée par un singe et le singe pareil. Donc, il faut vraiment la protéger dans ce sens-là. Alors maintenant, ce qui m'a intéressé, moi, donc voilà, j'ai fait un petit récapitulatif de ce que dit Ibn Jawzi par rapport à tout ce qui est normes relatives à l'accès à l'espace public pour les femmes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est quelles sont les résonances ou dissonances de ce texte par rapport à la réalité des femmes marocaines. Donc, est-ce qu'elles tiennent en compte ou intériorisées donc, ces normes-là dans leur pratique de l'espace? Alors, la première dissonance, c'est que les femmes, elles ont conquis l'espace public. Donc ça, on le sait, la ville qui était bastion de la masculinité donc, est accessible aux femmes, donc elle est permise aux femmes, donc la mixité est tolérée, les femmes ont accès au travail, au salariat, etc. Donc les femmes ne sont plus confinées dans l'espace public. Donc ça, c'est la première remarque à faire. Et il faut juste remarquer que quand on parle des femmes, il n'y a pas qu'une seule femme marocaine, il y a des femmes. Il y a des différences selon l'âge, l'appartenance socio-économique, l'origine sociale, culturelle, etc. Mais malgré ces différences, donc, l'analyse des modes d'appropriation donc, des espaces publics a montré que, premièrement, l'accès à la rue reste codifié. Il y a des contraintes à l'accès des femmes au dehors, qu'elles soient objectives ou subjectives. Alors, les raisons objectives, c'est que l'espace public n'accepte pas les femmes, est limité dans le temps pour les femmes. Certains endroits ne leur sont pas ouverts, par exemple. Elles subissent des pressions familiales et sociales. Le mariage constitue un frein à leur accès à l'espace public parce qu'il faut l'autorisation du mari et elles ont une charge de travail importante parce qu'elles sont partagées entre le dedans et le dehors, donc tout cela ne leur laisse pas le temps de sortir. Donc voilà les raisons objectives. Pour ce qui est des raisons donc subjectives, il faut noter donc le problème de l'intériorisation des normes relatives à l'usage de l'espace, ces normes, qu'elles soient religieuses ou sociales. Donc la première résonance, c'est que les femmes, quand on leur pose la question, quand on analyse un peu leur discours sur leur accès à l'espace public, elles sont convaincues que l'espace public est un espace masculin par excellence. Donc elles considèrent légitime l'usage sexué de l'espace et s'appuient sur la religion pour le justifier. Elles le considèrent donc comme un espace masculin, il est connoté négativement chez elles. Et là, c'est vrai que si elles se sont réaffirmées, si on voit les femmes dans l'espace public, il ne reste pas moins qu'elles définissent et délimitent elles-mêmes leur place dans cet espace et leur liberté. Deuxième résonance concerne les rites du paraître en public. Donc, et dans l'accès au dehors, les femmes sont soumises à des rites du paraître en public, par le port du voile par exemple, l'attitude de pudeur et de discrétion qu'elles doivent observer. Les femmes nous disent par exemple, quand elles doivent passer devant un café, elles préfèrent changer de trottoir pour ne pas donc s'exhiber entre guillemets dans la rue, pour ne pas subir les regards des hommes, etc. Donc, et d'être dénudée du regard. Et la c'est vrai que la femme seule, gênée, préférera donc s'éloigner et elle s'impose. Et l'espace public pour elle est un espace d'autocontrôle et de maîtrise du corps. Donc, c'est-à-dire, elle a une démarche baissée, la tête baissée, une démarche pudique et rapide. Et là, c'est vrai qu'on voit que les inhibitions sociales, culturelles et religieuses paralysent un peu le corps féminin dans l'espace public. Hein. Troisième résonance, c'est que la femme doit rester chez elle. Et on note chez les femmes donc interrogées une profonde identification à l'espace privé, domestique. D'ailleurs, leurs loisirs sont des loisirs d'intérieur. Hein. Par exemple, ils sont axés sur la famille et sur les activités domestiques, le ménage, la cuisine, la télévision, la réception, etc. Donc, qui bien sûr sont fruits d'une sexualisation sexiste. Et le loisir des femmes surtout mariées, il est contraint, donc il tend à reproduire les rôles traditionnels des femmes. Et c'est vrai qu'on entend souvent les femmes, par exemple, se vanter de rester chez elles. Les femmes disent « oui, moi je suis une femme hdoudia », c'est-à-dire réservée, ma porte est toujours close, avec l'expression « babim stuzelie », donc je ne sors pas, pour montrer qu'elle ne fréquente pas l'espace, le dehors, et qu'elle est... qui limite ses contacts. Hein. Et d'ailleurs, le terme « mixité mkhalta », comme elles le disent, il est vraiment connoté et considéré comme nuisible à la réputation de la femme. Ce qu'on peut dire, c'est que l'usage donc, de tout cela, c'est que l'usage de l'espace chez les femmes est un usage utilitaire. L'usage de l'espace public est utilitaire et la motivation de sortir reste une chose très importante. Par exemple, la femme ne dira jamais « je vais sortir me promener », elle dira « je vais aller changer d'air ou me dégourdir les jambes » parce que pour exprimer son besoin de sortir, parce que le terme même d'aller sortir est mal vu. Donc sortir sans but précis est synonyme d'errance et d'irrationalité pour ces femmes-là. Et il signifie aussi une perte de temps parce que c'est un temps que les femmes pourraient passer à la maison à faire... à mener leur activité domestique. Donc le domicile et le lieu de travail apparaissent comme les deux pôles essentiels de la vie des femmes. Les lieux qu'elles fréquentent restent localisés et leurs déplacements sont ciblés. Donc la répartition traditionnelle de l'espace persiste et pèse encore de tout son poids sur l'inconscient des hommes et des femmes. Et là, pour conclure, j'aimerais juste dire que si les femmes ont investi symboliquement l'espace public et ne l'ont pas investi sur le plan psychologique, et symbolique, malgré évidemment la volonté des jeunes de sortir des carcans des traditions, les obstacles d'ordre culturel persistent toujours. Le patriarcat, le code de l'honneur, les normes religieuses traditionnelles continuent à régir les rapports en femmes et surtout à codifier la présence des femmes dans l'espace public. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci.